Voilà, avec l'équipe pastorale, on est heureux de vous accueillir ce matin. Et c'est notre sœur Anne Burle qui va nous parler maintenant. On va ouvrir la Bible avec elle. Merci Anne.
Bonjour à tous. Ah, ça fait du bien. Bonjour. Ah ouais, c'est trop bon, vous êtes là. Merci. Alors, vous êtes accueillis les uns les autres, mais j'espère que dans votre cœur, vous avez accueilli le Seigneur. Et je pense que ce matin, vraiment merci Seigneur, c'était bon. Alors comme l'a dit Michel, dimanche dernier, on entame une thématique sur accueillir. Et Michel, il a parlé du fait que, qu'est-ce que ça voulait dire accueillir ? Jésus nous a accueillis et à notre tour d'être des accueillants. Il a dit aussi que accueillir, c'est recevoir favorablement. Il y a aussi accueillir, c'est recevoir défavorablement. Mais ça, on ne le retient pas. Et j'ai regardé l'étymologie du mot accueillir. J'ai trouvé très intéressant. Accueillir est formé du préfixe latin ad, qui indique la direction, et du radical cueillir, qui est issu du latin colligère, qui signifie rassembler. Accueillir et cueillir sont des proches parents. Et j'ai envie de dire, l'accueil devient poétique. On va se mettre tous à cueillir. Et avant le XIIIe siècle, il signifiait protéger, réunir, associer et aider. Et moi, je trouve que ce mot accueillir, derrière lui, il cache d'autres belles actions. Vous êtes d'accord avec moi ? Et mais Michel a parlé de différentes manières, différents exemples d'accueil. Est-ce que vous vous en souvenez ? Il y avait en Polynésie avec le collier de fleurs. Il y avait l'accueil asiatique avec des genoux flexions. L'accueil du Sud, celui-là il me marquait, du Sud du Tchad avec de la viande, un morceau de viande. C'était pas mal. Et il y a une coutume d'accueil qui date de l'Antiquité et dont la Bible parle. Alors, je vais vous lire deux passages, mais je pense que vous allez découvrir. Dans Genèse 18:4, il est écrit « Il, Abraham, leva les yeux et vit trois hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. » Permet qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Dans Genèse 19:2, il est écrit, puis il dit, « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre chemin. » Alors, de quelle coutume va-t-on parler ce matin ? Vous êtes là ? Vous pouvez répondre, hein ? Lavement des pieds. Alors là, on va lire le texte dans Jean 13, 3 à 5. Jean 13, 3 à 5. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait vers Dieu. Jésus se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Au travers de cette coutume antique et de ce que Jésus a reproduit, nous allons découvrir que dans l'accueil, il y a une notion d'honorer. Dans l'accueil, il y a une notion de se soumettre et dans l'accueil, il y a une notion de s'engager. Alors oui, le titre de ce message, c'est « L'accueil, c'est un don de soi » et j'ai même envie de dire parfois d'un abandon de soi. L'accueil, notion d'honorer. On va revenir quelques années auparavant pour comprendre le rituel de lavement des pieds et remettre cet acte dans son contexte moyen-oriental de l'époque de Jésus. Pourquoi ? Il faut se rappeler que de ce temps, ben, les moyens de locomotion, c'était les pieds. Eh oui, devaient avoir de bons muscles d'ailleurs. Et la majeure partie de leurs déplacements se faisait pieds nus ou accompagnés de sandales en cuir. Ils n'avaient pas le tramway, n'avaient pas l'avion, n'avaient pas tous ces moyens de locomotion. Et étant donné, bien sûr, que les routes, avant, elles n'étaient pas goudronnées, encore dans certains pays, elles ne sont pas goudronnées, ben, la partie du corps qui se salissait le plus, c'était les pieds. Ils étaient remplis de poussière. Et quand les personnes arrivaient à destination de leur voyage, elles attendaient de leur hôte ce rituel de lavement des pieds. Et le peuple juif appliquait ce rituel de lavement des pieds et cela faisait même partie des lois de l'hospitalité. Jésus en parlera dans Luc 7, 44 à 46. Il dit, puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle a mouillé de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. » Simon n'avait pas respecté cette règle d'hospitalité, cet acte prouvant que l'hôte est honoré de recevoir quelqu'un dans sa maison. Et ce rituel de lavement des pieds, c'est un rituel honorifique qui honore la personne. Honorer, dans sa définition la plus simple, c'est traiter avec respect. C'est le tenir en haute estime, c'est faire honneur à. L'honneur est un sentiment d'estime, de considération, porté envers une personne. Là, je veux juste mettre une pause dans la définition parce que la suite montre qu'il y a une condition à être honoré. Cette condition, c'est que la personne doit avoir une conduite digne. Elle doit avoir une conduite qui le mérite d'être honorée, qui est conforme à un certain nombre de normes d'un groupe ou d'une société. On honorait les personnes qui le méritaient. Et dans le texte de Jean 13, c'est Jésus qui lave les pieds. Pourtant, quand on lit bien, ce n'est pas lui, ce n'est pas chez lui que se passe le repas. Ce n'est pas Jésus qui accueille chez lui les disciples. Ce n'est pas lui, l'hôte. Et cela n'empêche pas Jésus d'honorer et de prouver qu'il respecte ses disciples. Il prend la place de l'hôte et accomplit le rituel d'hospitalité. C'est sûr qu'il n'a pas été précisé dans ce passage si le lavant des pieds a été fait au début. Mais Jésus le fait. Il honore. Il montre de la considération à ses disciples. Et dans tous ses déplacements, Michel en parlait la semaine dernière, Jésus a considéré chaque personne, quelle qu'elle soit. Il n'a pas fait de différence, mais il a fait la différence. En accueillant avec honneur chacun des personnes qu'il a croisées et en accueillant avec honneur chacun d'entre nous. Il faut noter aussi que Jésus n'a pas honoré, n'a pas considéré seulement les personnes ayant une conduite digne, ayant une conduite qui méritait d'être honorée ou qui était encore en conforme, qui était conforme, pardon, à des règles que la société avait définies. Jésus n'a pas eu honte de s'approcher et d'accueillir des personnes de catégories socio-professionnelles différentes. Jésus n'a pas eu peur d'ouvrir ses bras à des enfants, à des malades, à des rejetés de la société et à des pécheurs. N'oublions pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui revient à dire que Dieu a tant aimé le monde, Dieu considère chacun d'entre nous. Et que si Dieu donne de l'importance à chacun d'entre nous, nous devons aussi donner de l'importance à chacun d'entre nous. Amen. Et souvent, je me pose cette question, mais que ferait Jésus à ma place ? C'est vrai, quand il y a des personnes qui... On n'a pas d'affinité particulière, on va dire. Mais si Jésus, qu'est-ce que tu ferais, toi ? Tu lui ouvrirais les bras ou tu le rejetterais ? Jésus était populaire dans ce temps. On parlait de lui de partout. S'il y avait la télé, internet et tout, sur YouTube de partout, on parlerait de lui tout le temps. Il serait en première de l'affiche et tout ça. Mais ça ne l'a pas empêché de considérer chaque personne qui crie à lui ou chaque personne qui croisait. Honorer en parole, oui, c'est bien. Mais honorer en acte, c'est encore mieux. Et pourtant, honorer est un acte qui a une part de soumission et d'humilité. La soumission, se soumettre. Cette tâche de laver les pieds était accomplie par le serviteur de la maison ou l'esclave. C'était une tâche considérée comme humiliante. Et Jésus était le serviteur, était-il le serviteur ou l'esclave de la maison ? Non. Il était l'invité d'honneur. Il était celui qu'on voulait à côté de soi pour manger à ses côtés. Mais Jésus se présente comme l'hôte du repas qui prend la place du serviteur. Et je ne sais pas si vous réalisez, comme vous le voyez là sur le schéma, hiérarchiquement, Jésus, invité d'honneur, Jésus devient l'hôte et Jésus devient le serviteur. C'est comme si vous imaginez, un grand directeur ou d'une boîte qui dit « Ok, je descends d'un grade, je descends ». Normalement, on monte les échelons, mais là, il est descendu. Jésus s'est soumis à une règle pour atteindre, pour connecter avec ses disciples, pour leur faire comprendre quelque chose, pour communiquer avec eux. Lui, le Fils de Dieu, le Maître vénéré, le Messie imaginé comme un chef de guerre victorieux de tous les ennemis d'Israël, prend le rôle de serviteur. Il prend le rôle de serviteur, il se soumet, il s'humilie. Jean 13, 4 dit « Il se lève de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Il enlève ses vêtements d'invité. Il quitte sa place d'invité d'honneur et il se revêtit du vêtement du serviteur. » Jésus n'était tellement pas dans les normes et dans les codes de l'époque que ça a choqué Pierre. On le voit dans le verset 6 et 8 de Jean 13. Il arriva donc vers Simon-Pierre, puis il lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. » Mais tu le comprendras par la suite. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Mais attends Jésus, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est pas dans le code culturel. Attends Seigneur, tu es l'invité d'honneur. Laisse ça faire aux esclaves, aux serviteurs de la maison, mais pas à toi, s'il te plaît. Mais oui, Jésus a pris la place de serviteur. Et là, je me suis imaginé la scène de Jésus devant Pierre et Pierre qui lui dit attends, je te rappelle. Et moi, j'ai envie de dire, Pierre, moi, je te rappelle que c'est Jésus le Fils de Dieu et qu'il est au courant des codes culturels et de tout ça. Et Jésus a pris la place de serviteur. Jésus s'est soumis pour prendre le rôle de serviteur. Il s'est humilié. Philippiens 2, 6, 8 dit, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux autres humains, Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. Et la mort là qu'on parle, c'est pas une mort naturelle, c'est pas une mort dans le sommeil, c'est une crucifixion, c'est une torture. Je sais pas si vous avez regardé la Passion du Christ, mais quand je l'ai vu, waouh, j'ai juste été mais choquée intérieurement et j'en ai pleuré de m'imaginer, de voir visuellement ce que Jésus a souffert, jusqu'où il est allé se soumettre. Et pour se soumettre, il faut avoir une qualité d'humilité, de dévouement et d'amour. Ce que Jésus a fait. Jésus, il s'est humilié à la condition humaine pour au final qu'on soit accueilli dans la présence de Dieu. Afin que rien ni personne ne nous sépare de l'amour de Dieu. Et la soumission, en fait, c'est se soumettre, c'est se mettre sous la mission de Dieu. Jésus s'est mis sous la mission de Dieu, le Père, qui était d'être le sacrifice parfait pour effacer nos erreurs, notre désobéissance. Je ne sais pas vous, mais on a entendu pas mal parler de la soumission. Et parfois, les termes, je vous assure, m'ont fait grincer des dents. C'est peut-être parce que j'étais un peu rebelle. Et je pense que je n'avais pas moi-même réalisé avec le regard de Dieu, ce que c'était la soumission. Jusqu'au jour où, lors d'un camp de famille, un pasteur parle de cette soumission. Et il l'avait expliqué en disant, la soumission, c'est se mettre sous la mission de quelqu'un. Et alors là, j'avais l'impression d'avoir tout compris. Être sous la mission de quelqu'un, c'est pas mal. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt rassurant. Quand il est dit « Enfants, soyez soumis à vos parents », en tant qu'enfant que j'étais, rebelle, j'allais dire la Bible, attends, tu connais pas mes parents. Mais en fait, les parents, ils ont une mission, c'est d'élever les enfants, c'est de les accompagner jusqu'à qu'ils aient la maturité de réfléchir eux-mêmes, de décider eux-mêmes. Mais nous, quand on est enfant, on ne le comprend pas trop ça. Alors les enfants, ils ont la mission d'obéir à leurs parents, de se soumettre, oui, parce que les parents sont là pour les aimer. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue, mes parents m'ont raconté. Mon papa travaillait la semaine, quand j'étais petite, je venais de naître, donc mon papa travaillait toute la semaine, il était en déplacement dans des chantiers. Et du coup, il rentrait le week-end. Et ce qui se passait en fait le week-end, quand il rentrait, c'est que je pleurais parce que je ne reconnaissais pas mon père. Et mon père, ça l'a touché dans les tripes en tant que papa, de dire « mais ma fille, elle ne me reconnaît pas, c'est choquant ». Et qu'est-ce qu'il a fait, mon père? Il a démissionné, il a changé de travail pour avoir cette communion avec sa fille et pour que je reconnaisse que ça soit mon père. Et je me dis, quand on dit la soumission, quand on parle de soumission, mais en fait, quand on connaît le père, on a juste envie de dire « oui, je me soumets ». Quand on dit « femmes, soyez soumises à vos maris. » Moi, je vous assure, quand je lisais ce verset, j'avais pas envie de signer. Je dis, ouais, c'est ça. Je vais me soumettre. Mais c'est vrai que la société a tellement déformé. Mais si on lit la suite, si notre mari ressemble à Jésus et qu'il a donné sa vie pour l'Église, alors qui c'est qui a pas envie de signer? Sincèrement. Levez pas la main, les sœurs. Non, je rigole. Et même, je le vois dans le travail, avec Raymond Pierre, Michel et PS, ça ne me dérange pas d'être soumise à eux. Mes messages, ils les lisent avant que je vous l'apporte. Ça, c'est moi qui l'ai décidé, mais ça ne me dérange pas parce que je vois en eux Jésus, parce que je vois cet amour de Jésus. Et qui n'a pas envie de se soumettre à une personne qui transpire Jésus, qui a cet amour, cette passion, cette compassion, cette miséricorde? Moi, je signe de suite. Moi, j'ai déjà signé. Mais quand on voit, j'ai envie de dire, plus large encore, nous sommes tous missionnaires. Nous avons tous pour mission d'être les témoins, témoins de ce que Jésus a fait dans notre cœur. Dieu nous fait participer à sa mission de parler de lui autour de nous. et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on est une église internationale. Donc il y en a peut-être, ils retournent dans leur pays pendant les vacances et vous avez cette mission d'être ces témoins du Seigneur. La soumission ne va pas sans l'humilité, sans le fait de s'abaisser. Et souvent, on a du mal en disant, oui, m'abaisser. Je m'abaisse. Je plie un genou. Abaisser ne veut pas dire se dévaloriser. Mais m'abaisser veut dire valoriser l'autre. Et quand je parle souvent à un enfant, j'ai appris de m'abaisser, de me mettre à son niveau, pour le regarder dans les yeux, pour lui dire qu'il a de l'importance, pour lui dire que je l'écoute, pour accueillir ses paroles, accueillir ce qu'il a à me donner. Paul donne aussi un exemple dans 1 Corinthiens 9, 20, 22. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans la loi, j'étais comme faible avec les faibles, afin de gagner des faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Accueillir, c'est se soumettre, se mettre sous la mission d'eux. C'est se mettre à la portée d'eux et être à l'écoute. Non pas pour tout oublier, mais pour valoriser l'autre et le mettre en avant. Et une fois, il y a 2 mois de ça, on avait un événement organisé. Et donc, je coordonne un peu tous les pôles de l'église. J'envoie des messages pour mettre en relation les pôles, pour dire ce qui va se passer. Et à une des responsables, je lui dis, voilà, j'ai besoin, est-ce que tu me permets de faire ça avec ton équipe et tout ça, machin, non. J'envoie le mail. Et puis, je la revois un dimanche matin. Et elle me dit merci. Et je la regarde. Merci. Pourquoi ? Et elle me dit, pour ton mail. Je dis, alors écoute, j'en reçois pas qu'un de mail. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Elle me dit, voilà, à tel moment, tu m'as demandé mon autorisation. Et elle me dit, ça m'a touchée. Moi, je dis, je t'explique. Pourquoi tu ne voulais pas que je demande ton aval ? Elle me dit, mais t'es quand même assistante pastorale ? Oui, et ? Je suis assistante pastorale, ok, d'accord, mais c'était pas ma mission. C'était pas mon pôle. C'est pas moi la responsable. Et ça ne me dérange pas de me soumettre. Au contraire, quand on réalise ceux qui sont en tête et en responsabilité, c'est compliqué. C'est difficile. Il y a des défis, il y a des challenges qu'on doit relever. Mais quand on est sous la mission, on est quand même un peu protégé. Et là, je lui ai dit, mais moi, il n'y a pas de problème. Je suis sous ta mission. Ce n'était pas la mienne. Et c'est vrai que de réaliser qu'on n'a pas cette responsabilité quand on est sous la mission de quelqu'un. On est plutôt en protection. Et dans une mission, il y a toujours, bien sûr, un engagement à honorer et à respecter. Un engagement, c'est une action de mettre en gage, de lier par une convention ou un contrat. Alors, je pensais au contrat d'assurance qu'on a signé, ou quand il nous arrive une difficulté ou quoi, il s'engage à nous rembourser, à nous dédommager. Il y a le contrat de mariage où on s'engage pour le meilleur et pour le pire. Moi, je vais leur demander de changer le pire. Pour moi, il n'y a pas de pire. Ça sera pour le meilleur et pour le meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours à apprendre et on apprend toujours. Et dans le récit de Jean, on voit que Jésus, on voit que l'invité d'honneur, le Fils de Dieu, ce personnage célèbre, important, se lève de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il a versé de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples. On ne voit pas écrit dans ce passage, il y a Pierre qui pousse Jésus, qui lui dit « Oh, oh, faudrait peut-être que tu y ailles là ». On ne voit pas quelqu'un qui le secoue, qui tire Jésus, non. Il s'est engagé, lui-même à faire cet acte, à honorer, à respecter. Et il l'a fait jusqu'au bout. Si on regarde à la lumière de toute la Bible, avant même la création du monde, avant même que le premier homme pose le pied sur la terre, Jésus s'est engagé à prendre la forme humaine. Ce qui veut dire qu'il a quitté son ciel de gloire. Il a quitté ce lieu de paix, de joie, d'amour, d'abondance. Il a quitté toutes les richesses non périssables qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Pour venir où ? Pas dans un endroit meilleur, mais pour venir sur la terre. Pour subir les douleurs, la faim, la fatigue. Pour être au plus près de nous. Et même pour être avec nous. Pour venir nous accueillir dans nos conditions socio-culturelles différentes et faire de nous des enfants de Dieu. Il s'est engagé juste au bout. Pourtant, comme l'a cité tout à l'heure RP, pourtant dans le jardin de Gethsémané, Matthieu 26, 39, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Oui, il a eu peut-être ce moment d'hésitation et encore, il savait qu'il irait jusqu'au bout. Il s'est engagé. Jésus était au courant sur tout ce qu'il allait souffrir. Il le savait d'avance. Il s'est engagé à obéir jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Même si à un moment il a demandé que cette souffrance s'éloigne de lui, il est vite revenu à l'engagement. L'engagement d'obéissance envers son Père. Et c'est vrai que nous, quand on signe avec le Seigneur, j'ai envie de dire, on ne connaît pas tout. Certaines personnes, elles ont besoin de voir les conditions. Si je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, 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 ça et ça. Si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer ? Quel est mon engagement ? Moi, je veux tout voir. Quand on demande les contrats de travail, on demande de tout lire, même entre les lignes, vous êtes d'accord avec moi ? Combien je suis payé, les heures supplémentaires, comment ça se passe, machin, nanana, avant de signer. Et là, avec Jésus, ben non, on s'engage. Parce que c'est pas le même contrat, c'est pour l'éternité. Et quand on veut accueillir, on s'engage pour qu'un grand nombre soit accueilli dans la famille de Dieu. Quand on accueille des personnes, et qui que ce soit, à n'importe quel endroit, engageons-nous à fond et allons jusqu'au bout. Quand parfois on voit des personnes qui sont faibles et qu'on veut amener vers Jésus notre témoignage, soyons des témoins de Jésus vivant. Il y a une personne qui m'a appelée cette semaine, une dame de l'église, et qui me disait, voilà, j'ai rencontré un jeune, il n'est pas de l'église, mais il est nouveau dans la foi, il est croyant. Est-ce que la réunion de jeunesse, tu veux bien qu'il vienne ? Mais bien sûr, mais amène-le. Et après, suis-le, accompagne-le, et on accompagne jusqu'au bout, on suit. La vraie question à se poser, c'est, suis-je prêt ou prête à m'engager ? Mais surtout, à accepter de mettre le « moi » de côté, et d'accueillir l'autre tel qu'il est. Suis-je prêt ou suis-je prête à m'engager, à me soumettre, à honorer l'accueil comme Jésus l'a fait ? Accueillir, c'est honorer la créature de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui nous a créés. C'est se soumettre à la volonté de notre Père et c'est s'engager jusqu'au bout. Accueillir, c'est cueillir. Cueillir notre prochain avec tout son passé, avec tout ce qu'il a, comment il a été formé. Accueillir dans le but de rassembler, de connecter chaque personne à s'approcher de Dieu. Alors pour toi qui n'as peut-être pas encore choisi d'accueillir Jésus dans ta vie, sache que Jésus s'est engagé à mourir sur la croix pour tes péchés. Qu'au travers de cet acte d'amour, il a honoré son Père, Dieu, en obéissant à sa volonté. Et que Jésus s'est soumis à la condition humaine alors qu'il était Dieu, pour t'accueillir dans la présence et pour que tu trouves la paix, la joie et le véritable amour d'être un enfant de Dieu. Et pour nous qui sommes croyants depuis peut-être plusieurs années, ou peut-être quelques petites années, Jean 13, 12, 17 dit « Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors c'est vrai que nous n'avons peut-être pas ce rituel de laver les pieds, mais là, par là, Jésus veut dire « Je me suis soumis, je me suis mis à la hauteur, je me suis mis sous une mission pour accueillir mon prochain, à vous aussi de vous accueillir les uns les autres. » En vérité, je le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son... Pardon. Oui, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Écoutez bien ces paroles. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Pourvu que vous le mettiez en pratique. Dimanche après dimanche, on a des enseignements, des paroles qui nous viennent de Dieu, des messages. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est vrai que la plupart du temps, moi, ce que je fais quand j'ai quelque chose, une parole qui vient, quand je retiens un truc de culte, je le marque pour me dire, ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Qu'est-ce que je dois mettre en pratique, moi, dans ma vie, pour que ça change et pour que ça devienne comme Jésus ? Qu'est-ce que je dois faire pour accueillir mon prochain, pour l'honorer, pour le respecter, pour m'engager, pour garder cet engagement ? Je vais vous donner un petit défi à faire aujourd'hui. À chaque fin de culte, c'est vrai qu'on va voir des personnes qu'on connaît, demander des nouvelles, comment ça va, ta semaine, les enfants, nan, nan. Mais aujourd'hui, à la fin du culte, je veux vraiment vous donner ce défi d'aller voir au moins une personne que vous ne connaissez pas. Une personne, c'est pas beaucoup. Moi, il y en a plein que je connais pas. Je pourrais peut-être pas toutes les voir dimanche, mais au moins une personne. D'aller l'accueillir, d'aller la saluer, d'aller prendre de ses nouvelles et de lui dire « Je suis heureux, heureuse de te voir. » Amen. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ta parole, te remercier pour cet exemple que tu nous as donné de soumission, d'humilité. Seigneur, de honorer et de s'engager. Père, je te prie que cette parole ne reste pas sans effet, mais qu'elle travaille chacun de nos cœurs et que oui, Seigneur, comme tu lui dis, de le mettre en pratique. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup à Anne pour ce message ce matin. Et c'est de manière résolue que nous choisissons de concentrer toute notre attention sur l'exemple, le modèle qui est Jésus-Christ. C'est important que l'Église soit christocentrée, christocentrique, centrée sur Christ, sur son enseignement, sur ses paroles, mais aussi sur son exemple.